enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous avons dernièrement touché comment est-ce que la femme peut ramener le vin dans son couple. En fait, nous avons dit que l'absence du vin nouveau est la responsabilité de l'homme et de la femme. Les deux sont tous deux responsables. Amen. Il faut donc qu'une de ces personnes-là se lève et décide de restaurer son foyer. Donc la décision peut venir de la femme, peut venir de l'homme. Je le dis dans le cas où l'autre conjoint ne comprend pas le message que vous voulez lui faire passer. Amen. C'est-à-dire, peut-être il ne connaît pas le Seigneur, il n'entend pas la parole que tu entends, ou bien il refuse la parole. Toi, tu peux te lever et par toi seulement, Dieu peut restaurer la famille. Amen. L'homme aussi, pareillement, il explique à sa femme, elle ne comprend pas, il essaie de lui expliquer des choses, elle ne saisit pas. Avec, par ta seule personne, Dieu peut restaurer le couple. Amen. Amen. Les conseils que nous sommes en train de donner sont des conseils spirituels qui amènent l'Esprit de Dieu à agir. Mais je veux dire, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, il faut accompagner l'ensemble de ces enseignements par la prière. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas parce que vous avez compris une vérité spirituelle qu'elle s'active de facto dans votre vie. C'est un peu comme si on te donne une clé. On dit voici la clé pour ouvrir la porte. Mais la prière, c'est quand tu prennes la clé et tu la mets dans la serrure. Alléluia. Voilà, on peut te donner les clés, comment réactiver, mais si tu ne te lèves pas dans la prière pour les appliquer, elles ne serviront à rien. Donc il faut te lever, il ne faut pas simplement se limiter à entendre ces choses. C'est vrai, lorsqu'on dit des choses qui font rire, on rit un peu, on a compris. Mais il faut pouvoir appliquer, il faut pouvoir commencer à vivre l'amour agapé, il faut se forcer à l'appliquer. Vous allez voir que quand vous allez commencer à appliquer ces choses, Dieu va agir. Les conseils que nous avons donnés pour attirer l'homme ou la femme de votre vie, il faut les appliquer. Il ne faut pas simplement entendre, rire, et puis on va être là, on parle. Et de manière pratique, tu n'es pas dans ta vie, tu ne changes pas tes os. Hein, on a expliqué tout ça, chair de ma chair, tu ne travailles pas ces personnes, tu ne travailles pas ton être intérieur, tu te contentes seulement de dire Amen, 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 et tu vas t'attendre à voir un miracle, mais tu n'en verras pas. Et ton mariage risque encore de tarder. Donc il faut faire l'effort de travailler constamment ta personne, te remettre en cause, reprendre la parole de Dieu. Quand tu n'as pas encore, tu n'as pas bien saisi le message, même si tu l'as bien saisi, procure-toi les enseignements, les CD, les coffrets, alléluia, fais l'effort de les acheter et puis réécoute-les. Il est certain que tu vas découvrir certaines subtilités dans le message que tu n'avais pas perçu la première fois lorsqu'on donnait les enseignements. Je vous encourage vraiment à réécouter les enseignements, amen, parce que tout simplement, on peut être un peu distrait. Pendant que quelqu'un le passe en train de donner le message, il peut avoir une vérité qu'il a donné à un moment donné, qui t'attire tellement que pendant un moment donné, tu n'es plus se concentre en train de réfléchir sur la phrase qu'il vient de prononcer. Et pendant que tu te connectes à cette phrase-là, le pasteur a enchaîné deux autres vérités. Voilà. Et tu ne l'as pas perçu. Alors, en prenant les CD, parce que les enseignements sont tout enregistrés, en les réécoutant, tu vas découvrir encore certaines choses. Tu prends ta Bible, tu médites. En fait, faites en sorte que la parole de Dieu soit active en vous. Amen. Ce n'est pas simplement parce que vous venez vous asseoir au mardi des champions qu'il y aura la victoire. Le mardi des champions, c'est la parole, mais la parole doit être arrosée de la prière. Et c'est comme une pluie, amen, qui vient sur cette semence de la parole et qui donne son fruit. Amen. Alléluia. Alors nous avons aussi commencé, je vais simplement commencer à disposer les hommes à ce qu'ils doivent faire de leur part, de leur côté, pour restaurer leur foyer, pour restaurer leur maison. Donc, comment un homme peut-il amener le vin nouveau dans sa famille? Alléluia. Alors, un homme peut se lever et il commence à constater que ça ne va pas vraiment avec sa femme, il ne s'entend pas, la paix qu'il souhaitait avoir, il ne l'a pas. Chaque fois qu'il arrive, la femme lui fait des histoires, la maison est tendue, il n'a plus la paix chez lui, tu commences même à préférer rester dehors que rentrer chez toi. Ou bien vraiment tu arrives et puis vraiment, les choses que tu souhaites obtenir de ta femme, que tu estimes être légitimes, tu ne les obtiens pas, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas satisfait de ton couple. Ou bien par exemple, tu es un homme, tu commences à découvrir que l'attachement que tu avais vis-à-vis de ta femme commence à disparaître, tu n'es plus vraiment attaché à elle, tu l'aimes plus comme auparavant, et vraiment, ou tu es encore un homme et tu commences à découvrir que depuis un moment donné, il y a comme un front entre ta femme et toi, et subitement, certaines
personnes, d'autres filles à l'extérieur commencent à attirer ton regard, tu commences à être attiré, tu commences à faiblir. En fait, toutes ces choses-là sont des symptômes de la disparition, de la perte du premier vin. Lorsque tu commences de moins en moins à être attaché à ta femme. Alléluia. Lorsque tu peux commencer à faire une journée, deux journées, trois journées, tu commences à faire même une semaine sans qu'elle ne te manque, sans que tu n'aies envie de l'appeler, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller. Alléluia. Quand tu es prêt même, c'est-à-dire on te dit tout de suite là, va faire, va en mission pour un an. Tu dis ok, il n'y a pas de problème, tu es content même d'aller en mission pour une année. Sans que tu n'aies envie de voir ta femme pendant une année, c'est que le vin commence à manquer. Il y a un problème. Quand ta femme ne fait plus ta joie, quand ton épouse ne fait plus ta joie, ne fait plus ton bonheur, c'est que le vin est venu à manquer. Tu dois chercher à le renouveler. Alléluia. Tu dois chercher à le renouveler. Tu dois chercher à réactiver le vin dans ton foyer. Parce que Dieu n'a pas... Il ne dit pas, bon, le vin est fini, voilà le plan B, va prendre une autre femme. Non. Non, parce que en fait, si tu as bien compris la partie de l'enseignement, lorsque nous sommes en train d'enseigner les, comment la femme peut amener le vin, on a dit ceci, c'est que la première base de nos sentiments amoureux ne sont pas les bons. La première base n'est pas la bonne. Amen. Ce n'est pas une bonne base. Parce que nous bâtissons nos relations sur le sentiment qu'on appelle philéo ou sur le sentiment qu'on appelle, ou sur la sensation charnelle qu'on appelle eros. Or, le mariage selon Dieu, le vin qui ne finit pas, lui, il est fondé sur agapé. Amen. C'est ce que nous avons dit. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, le philéo finisse aussi entre un homme et sa femme. Quand, si tu t'es marié juste pour le philéo, tu vas sentir que le philéo commence à disparaître. Si tu t'es accroché à cette fille juste pour du eros, tu vas te rendre compte que eros commence à disparaître. C'est-à-dire le jour où ta femme, tu l'avais aimée bien en chair, elle a commencé à maigrir, que tu te rends compte parce qu'elle est en train de maigrir, elle t'attire de moins en moins, c'est que ton mariage était basé sur du eros. Alléluia. Si tu ne savais pas, peut-être que tu ne travaillais pas, en tant que tu as marié une femme, peut-être qu'elle travaille un peu mieux que tu as un peu plus d'activité que toi. Maintenant, le jour où elle a perdu son boulot, tu commences à vouloir te séparer un peu d'elle, bien, tu sens que la chaleur commence à baisser, c'est que le sentiment que tu avais vis-à-vis d'elle n'était pas un vrai amour. C'était un sentiment eros méchant. Un peu méchant même. Parce que c'est intéressé grave. C'est pas bien. Alléluia. Mais tu es déjà marié. Gloire à Dieu. Tu vas prier pour que le bon fondement du foyer soit en toi. Amen. Et l'amour agapé, comme on l'a dit, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on ressent. L'amour est un commandement. Agapé est un commandement. Ce n'est pas quelque chose que je ressens. Ce n'est pas que ma tête chauffe, mon cœur bat quand je pense à la personne. Non. Agapé commence toujours par une décision. C'est-à-dire, je regarde la personne et je décide de l'aimer. Je commence comme ça. Amen. Je confesse mon amour pour la personne. Alléluia. Je confesse. On étudie 1 Corinthiens chapitre 13. Je manifeste cela et à force de confesser et de faire ce que j'ai dit au fond de la dernière fois, vous allez voir que Dieu va... Donc, Philo a disparu, Eros est parti. Dieu va poser le bon fondement qui est agapé. Et quand tu vas commencer à développer agapé, là-dessus, il va déposer et tu vas appliquer les autres éléments, par exemple de la soumission. Le filéo va renaître. C'est agapé qui est le filéo. Donc l'attachement où ton cœur bat pour lui, ça va revenir après. Amen. Mais il faut commencer par agapé. Et puis après, le filéo, directement, le héros va attaquer. Subitement, tu vas découvrir que ton homme te plaît. Ou bien l'homme va découvrir que la femme vraiment te plaît. Et il va se rendre compte que même si elle devient un peu forte, même si elle maigrit, il aime toujours. Ça ne change pas. Quand vous vous mariez simplement pour une forme charnelle, quand la forme de la personne varie, votre amour aussi varie. Si son teint change, votre sentiment aussi change. Ça veut dire que l'attachement que vous avez pour cette personne-là était juste eros. Alléluia. Si, dès que la personne ne vous salue plus, elle ne vous visite plus, ou bien il n'y a plus cette notion d'amitié, n'est-ce pas, d'amitié, vous avez l'impression que, quand l'amitié commence à monter, vous avez l'impression que vous ne l'aimez plus, ça veut dire tout simplement que votre amour n'était pas le bon. C'était juste un sentiment filéo et que Dieu est en train de vous montrer par là que vous n'avez pas le bon type d'amour pour votre conjoint, alors bâtissez sur agapé. Alléluia, qui lui est un commandement. Et quand l'amour agapé est dans le fond du cœur, il renouvelle constamment les philéos et les eros. Amen. Mais quand il n'est pas en dessous, philéos et eros finissent toujours par disparaître et ça met le désarroi dans le foyer. Amen. Alléluia. Donc pour un homme, voilà, donc ta femme t'attire plus. En fait, toutes ces genres de choses-là te montrent que le vin est en train de finir. Mais ne cherche pas à aller vers une autre personne. Ça ne sert à rien. Parce que même si tu pars vers une autre personne, les mêmes choses vont reprendre. Les mêmes choses vont recommencer. C'est-à-dire, tu es attiré par une femme. Soit pour Eros, tu es attiré vers une autre. Soit pour Eros, parce qu'elle a une forme qui t'attire. Soit tu es attiré vers elle par un sentiment philéoïque. Hein? C'est-à-dire, oui, elle sait te parler, elle est douce avec toi. Vraiment, ta femme, elle te fait tout le temps des palabres. Mais la jeune dame que tu as rencontrée, vraiment, elle sait te prendre, elle est attentionnée, elle t'écoute. Ta femme ne t'écoute plus. Mais cette femme-là t'écoute. Et puis, subitement, tu commences à oublier ta femme. Et tu veux t'attacher à celle-là qui a commencé à devenir pour toi une amie. En fait, l'attachement que tu as n'est pas le vrai amour. C'est un attachement philéoïque. Ça veut dire tout simplement que ce qui s'est passé avec ta femme dans le passé va se reproduire. Tu vas ne faire que recommencer une autre histoire. Donc, ça ne sert à rien. Parce que toute personne avec qui tu t'attaches sur une base d'amour filial, il faut savoir tôt ou tard, ça va finir. Tôt ou tard. Donc, et cette personne qui était ton ami, à un moment donné, elle ne te dira plus rien du tout. Donc, ça ne sert vraiment à rien de laisser ta femme pour essayer d'aller reprendre encore une autre aventure en disant « Oui, ma femme, je n'étais pas vraiment une amie, je n'avais pas vraiment d'amitié. Voilà, j'ai découvert une nouvelle là. Nous sommes vraiment amis avec elle. Je suis convaincu que ça ira de l'avant. » Mais quand Philo et puis Eros te remplissent, tu es convaincu à 100% que l'amour ne va jamais finir. Oui, il faut que c'est quand il commence à disparaître que tu te rends compte que, en fait, cet amour n'était pas éternel. Alléluia. Donc, l'homme doit pas, le premier principe, on a dit que l'homme ne doit pas accepter en victime résilier ces situations. Il ne faut pas accepter la perte de ce sentiment-là, du vin qui manque dans ton foyer. Il faut savoir que le sentiment filial qui est en train de partir, le sentiment Eros qui disparaît de ton cœur, n'est juste qu'une façon pour Dieu de te montrer que tu n'avais pas le bon fondement dans ton couple, monsieur. Alléluia. Tu n'as pas le bon fondement dans ton couple. Et tout simplement, la parole que tu entends te dit maintenant, posons le bon fondement. Donc, n'accepte pas la situation. Évite aussi de te laisser séduire par les excuses diverses. Du genre, cette femme-là, on ne peut pas la changer. Elle est trop compliquée. Depuis que je l'ai mariée, c'est comme ça elle est. Elle n'est pas gentille. D'elle-même, on ne peut rien faire. Banni de ton cœur ce type de sentiment, ce n'est pas vrai. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'entre les mains de l'Éternel, l'écline là où il veut. Dieu est capable de changer n'importe quelle personne. Amen. Tout ce dont il a besoin qu'il y ait une personne qui ait la foi. Si quelqu'un a la foi, Dieu fait des prodiges. Amen. Alors, alléluia. Deuxièmement, je l'ai dit aussi pour les femmes, tu dois identifier et écrire sur une feuille ce que tu ne supportes plus, ce que tu ne supportes plus sur votre conjoint. Il faut le marquer. Qu'est-ce qu'en fait tu n'aimes plus? Tu vas te dire, oui, la femme maintenant me fatigue, même pour pouvoir aller avec moi. Elle est très souvent sur le problème des hommes. Quand je veux dormir avec elle, elle me refuse, elle me chasse. Écris tout ça. Alléluia. Elle est trop dure, elle me parle mal. Identifie tout ce que tu peux noter comme étant, selon toi, la source de ce problème. Ou bien, elle est ceci, elle passe le temps dehors. En tout cas, tous les défauts, tout ce que tu peux répertorier comme problème, qui est la base de la disparition de ton sentiment, de tes sentiments vis-à-vis de ta femme, doivent être notés clairement. Amen. Le troisième point, c'est que tu dois t'examiner toi-même. Alléluia. En fait, les femmes, pour ce qui vous concerne, il faut le marquer aussi en troisième position. C'est tout aussi vrai. C'est-à-dire s'examiner soi-même. C'est-à-dire se poser honnêtement la question. Parce que quand le sentiment philo commence à partir, il faut t'asseoir et réfléchir. Et pourquoi j'ai marié cette personne? Je l'ai marié pour ce qu'elle m'apportait, ou je l'ai marié pour ce que moi j'allais lui apporter? Et en ce moment-là, si tu juges humblement et honnêtement ton cœur, tu vas te rendre compte que dans ton esprit, il y avait un sentiment égoïste vis-à-vis de ta femme. Amen. Quelque part, ça peut être un égoïsme érotique ou un égoïsme philéoïque. Un égoïsme érotique, je l'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire, franchement, je l'ai épousé à cause de sa forme physique. Je l'ai épousé à cause de son style. Je l'ai épousé. Voilà. Quand l'amour disparaît, tu peux distinguer. Si tu te poses sincèrement la question, tu vas dire, mais qu'est-ce qui me plaisait chez elle avant? N'est-ce pas? Et puis, aujourd'hui, là, ces choses-là ne sont plus là, alors je ne l'aime plus. Tu vas te rendre compte que, bon, parce que ça va te parler, en fait, tu vas te donner différentes raisons. Et tu vas te rendre compte, quand tu vas t'examiner, que ce n'était pas les mobiles,
que le Seigneur voulait. Alléluia.
Alléluia.
Le Seigneur a dit, prenez des vases qui sont destinés à la purification. C'est-à-dire, il faut changer tes mobiles. Je ne vais pas aimer simplement parce qu'elle m'apporte quelque chose. Et tout à l'heure, on va voir quels sont les mobiles pour lesquels tu dois continuer cette relation et t'engager avec ta femme. Amen. Quels sont mes véritables mobiles? Quelle est ma vision pour mon couple? Est-ce que tu avais une vision avant? Quand tu t'es marié, est-ce que tu avais une vision? Est-ce qu'il y avait un but? C'est-à-dire, tu t'es marié pourquoi? Tu t'es marié pourquoi? Est-ce que quand tu t'es marié, tu t'es assis? La Bible dit, deux personnes marchent ensemble, ça s'est mis d'accord. Mais quand on marche, on va quelque part. Alléluia. Est-ce que quand tu t'es marié, tu avais planifié, tu avais une vision, tu avais un but? Et tu vas demander à Dieu maintenant, mais Seigneur, je suis l'homme. Je n'ai pas donné un sens à mon foyer. Alléluia. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le couple est sans frein. Même les gens, on se marie et puis on vit comme ça. À nous, allez, la vie est la vie. Mais il est très difficile à ta femme de se soumettre. Parce que j'ai dit que la soumission, ça veut dire sous la mission, en dessous de la mission. Mais tu n'avais pas de mission. Je ne parle pas de ta mission égoïste. Du genre, moi dans la vie, il faut que je sois ministre. Avant même que tu la maries, tu avais cette pensée-là. Pendant que tu la maries, tu avais cette pensée. Donc en fait, elle ne vient que... C'est même pas soutenir ta vision. Tu vois? Mais je parle de la vision de ton couple, de la vision avec cette femme. C'est-à-dire, en la mariant, par rapport à ma destinée, de devenir directeur de société, de devenir ceci, cela, est-ce que je l'avais associé dans mon plan à ma vision? Est-ce que, quand je me mariais, j'avais associé cette femme-là à mon projet, à mon avenir, à ma destinée? Est-ce qu'elle fait partie de ma destinée? Est-ce que, homme, je te pose la question, est-ce que tu te voyais dans 50 ans avec la même femme? Comment vous voyez dans 50 ans? Beaucoup de gens vont réfléchir et verront qu'ils n'ont jamais planifié cela. Et c'est aussi valable même pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Tu veux te marier pourquoi? Parce qu'il y a des bases que tu commences déjà à avoir, des attitudes que tu poses dans ta vie qui vont te poser des problèmes demain. Tu te maries pourquoi? Il y en a qui se marient juste pour ne pas brûler. Elle dit, mon ami, comme on dit, ils sont fatigués, ils ont trop attendu, ils sont vieux. Là, ils ne tiennent plus. Si quelqu'un, une femme n'est pas venue, ils vont tomber dans l'impudicité. Donc, ils se marient pour ne pas tomber dans l'impudicité. Non. Il faut prier. Si tu as un problème avec un péché, demande à Dieu de te délivrer. Mais on ne se marie pas juste pour éviter l'impudicité. On se marie parce qu'on a un but. On se marie parce qu'on a une vision. Est-ce qu'avant de t'approcher de ta femme, de celle que tu veux marier, avant de t'approcher, est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as prié l'Éternel pour savoir quelle est ma vision? Est-ce que tu sens son apport dans la vision? Qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? Elle vient pourquoi? Ou bien as-tu une vision simplement de la femme comme une ménagère? C'est pas mauvais, mais ça doit faire partie d'un plan. C'est par rapport à ce plan-là que vous asseyez, vous discutez, et vous parlez, et vous priez. C'est par rapport à ce plan que tu es capable de reconnaître avec l'aide de Dieu qui est ton conjoint ou pas. Mais quand vous n'avez pas de vision, la Bible dit que vous êtes sans frein. Regardez quelqu'un qui ne sait pas où ça va aller. Comme je dis souvent, si tu vois quelqu'un, tu marches comme ça. Il s'appelle Yao. Mais il s'appelle Bernard. Bon, le genre de nom, il s'appelle Norbert. Bien frère Norbert. Il n'y a pas Norbert, ok. Et très souvent, il n'y a pas de Norbert. Donc, il s'appelle Norbert. Tu vois Norbert qui marche comme ça, tu peux demander à Norbert. Norbert, viens m'accompagner. Mais si un jour tu rencontres Norbert, puis Norbert marche comme ça. Est-ce que tu peux voir Norbert passer comme ça et puis dire, Norbert, viens m'accompagner. Parce que quand tu vois Norbert, tu sais que Norbert sait où il va. Il y a une manière de marcher, il y a une démarche dans la vie. On sait que tu ne sais pas où tu t'en vas. Ça veut dire que tu passes le temps. Donc quand on te voit tourner comme ça en rond, on peut venir te demander de... J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Viens m'accompagner, parce que tel qu'il marche, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'assurance. Alléluia. Peut-être que dans la vision, on peut se tromper, mais la vision est très déterminante pour un couple. Vous savez, quand vous n'avez pas de but, vous êtes sans frein, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais quand vous avez une vision, ça fait beaucoup de restrictions. Ça éloigne beaucoup de choses de vous. Et ça vous permet de vous focaliser sur l'essentiel. Quitte à ce que votre but, même après, soit un peu faussé, Dieu va le rectifier. Mais au moins, il faut avoir une vision. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi une des premières choses que le Saint-Esprit donne lorsqu'il remplit la vie de son enfant, c'est une vision. L'Esprit dit, l'Esprit va me donner une vision. Il faut une vision, il faut un rêve dans le cœur.
Amen.
Un homme, tu dois rêver. Tu dois avoir un rêve. Tu dois avoir un rêve pour ton foyer. Tu dois avoir un rêve pour tes enfants. Tu dois avoir un rêve pour ta maison. Tu dois avoir un rêve. Est-ce que tu as eu un rêve? Si tu n'as pas eu de rêve, sache que c'est une des causes, une des raisons pour laquelle tu avais un problème. Et c'est à toi de rêver. La femme vient sous ta mission. Amen. Elle aussi, elle a droit à ses rêves. Enfin, je parle du rêve de la famille. De la vision que tu as pour tes enfants. Est-ce que tu as planifié tes enfants? Est-ce que tu sais à peu près ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils vont devenir? Comment tu vas les éduquer? Comment tu vas les former? La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Mais c'est comme quelqu'un qui devient chef sans être préparé à être chef. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui est là, il m'a dit, j'écoute, tu es président de la République. Tu n'as fait aucune planification. On dit, tu es président pourquoi? On dit, mon frère, je suis président. Mais c'est ça, comment quelqu'un peut être chef sans programme, sans projet, sans vision? Attends, il conduit le peuple où? Attends, non, vous me comprenez, non? Hein? Tu as un groupe de personnes, quelqu'un vient, on dit, je suis le chef. Mais tu es le chef comment? On dit, mon frère, je suis le chef, on est assis maintenant. On dit, chef, est-ce qu'on peut aller aux toilettes? C'est bien, il va réfléchir. Chez moi, on va aux toilettes, on va aux toilettes. Non, on va pas aux toilettes, on va aux toilettes. Donc, mais tu deviens un monsieur désordonné parce que tu vas amener des règles dans la maison qui n'ont aucun sens, des principes bizarres, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. Tu vois? Parce qu'on fait des règles en fonction d'un but, en fonction d'un objectif. Quand on établit les règles dans le football, c'est parce qu'on veut marquer des buts et qu'on veut protéger les gens. Donc la vision détermine les règles. Quand on établit un code de la route, c'est parce qu'il y a une vision. On veut que les voitures circulent normalement. Donc, toute chose et les règles et la direction vient en fonction de la vision. C'est parce qu'on a un but qu'on établit des règles. Mais quand il n'y a pas de but, il n'y a pas de règles. Et les règles n'ont aucun sens. Donc, le vin va partir dans un couple tout simplement parce qu'il y a des hommes qui se marient et qui n'ont pas de vision. Je vous assure que peut-être 90% à 95% n'ont pas de vision.
Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit si quelqu'un me suit.
Donc s'examiner soi-même, connaître ses mobiles, connaître et puis toutes ces choses-là, les remettre en cause. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés, qui voulez vous marier, sachez que ce que Dieu attend de vous, il faut, ce que Dieu attend, c'est que vraiment avec vous, soyez d'accord sur votre vision. Votre vision ne sera pas peut-être claire, mais vous devez sentir cela. Et la femme, avant d'accepter, il faut sentir que de manière inconsciente ou consciente, un homme a un but dans la vie. Quelquefois, on ne peut pas te dire exactement la vision, mais vous pouvez sentir en parlant avec une personne qu'elle sait où elle s'en va. Peut-être que la personne ne peut pas définir clairement pour dire, moi, demain, je serai pasteur ou non. Tu vois? Il y a quelqu'un, par exemple, qui peut te dire, demain, je serai pasteur. Mais quand tu le regardes, là, en fait, il ne sait pas vraiment même ce qu'il veut. Mais c'est parce qu'il a vu un pasteur prêcher, il a aimé. Et ça, les femmes, vous avez ce discernement. Si vous n'êtes pas aveuglé par le désir absolu de vous marier, vous avez suffisamment de discernement pour connaître, pour sentir quelqu'un qui aime dessiner, quelqu'un qui va te trouver, quelqu'un qui ne va pas. Vous pouvez le sentir. Mais les femmes sont tellement aveuglées par le désir absolu de se marier qu'elles ferment les yeux. Vous allez dire, mon frère, on va rectifier ça. Il n'a pas de vision. Quand je vais le marier, je vais lui donner une vision. Il n'a pas de dessiner, je vais lui donner une dessinée. Tu vas rentrer dedans. Vous allez tourner en rond, tu seras découragé. Tu seras découragé.
Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen, 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 amen. Amen. Quatrième point.
Donc, comment l'homme va ramener la joie, le vin? Troisième point, donc, il doit s'examiner. Il doit savoir pourquoi il s'est marié et ce qu'il doit faire. Donc, après s'être examiné, il doit chercher la face de Dieu. Amen. Bon, j'inclus ça tout dans le point 3. Hein. Et puis, recentrer la vision de son foyer, recentrer la vision de sa maison, recentrer la vision de son couple avec l'aide de Dieu. Et par rapport à ça maintenant, il pourra appliquer les autres choses. Alléluia. La Bible dit aimer sa femme, le quatrième point, donc aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Alors, il y a trois grands piliers de l'amour de l'homme pour sa femme. Amen. Les trois piliers de l'amour de l'homme pour sa femme. Donc, de la même manière qu'on a décortiqué la soumission de la femme, c'était comme les trois étapes, non? De la même manière aussi, on va subdiviser l'attitude de l'homme vis-à-vis de sa femme en trois piliers. Alléluia! Bon, la première des choses, je vais dire ça à tout homme. croyez en la parole de Dieu. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi. Votre destinée se trouve dans la femme qui est avec vous. Je vous ai donné mon témoignage, mais c'est vrai. Le diable va vous cacher cela. Un homme, comme je l'ai dit la dernière fois, un homme est un chasseur. Il court vers un but. Mais écoute-moi, le but vers lequel tu cours a un chemin qui passe obligatoirement par ton épouse. Alléluia. Mes amis, si l'homme ne perçoit pas cela, il ne sera pas prêt à sacrifier sa vie pour sa femme. Parce que la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ aimait l'église, s'est livré pour elle. Mais si tu ne perçois pas le mystère, je rends grâce à Dieu qu'il m'a fait comprendre cela. Je prêchais, je priais, les malades étaient guéris, Dieu faisait des choses. Mais quand ma fiancée s'est séparée de moi, je crois que du fait que j'étais quelqu'un de spirituel qui aimait le Seigneur, Dieu m'a fait comprendre que j'étais à moins de la moitié de ce que j'étais capable de fournir sans elle. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu t'associes à ta femme, si vous êtes un, tu vas comprendre, tu vas connaître l'exaucement, le succès, la réussite. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu dit ceci, si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander à Dieu, il va leur accorder. Tout ce qu'elles demanderont, elles l'obtiendront. L'union est terrible. Frère, quand Dieu a créé, le premier être que Dieu a créé s'appelle Adam, c'est pas ça? Dieu l'a créé à son image. L'homme ressemble à Dieu. L'homme est comme Dieu. Mais l'homme-Dieu, là, Dieu l'a séparé en deux. Il y a une partie qui est partie dans la femme. Il y a une autre partie qui est restée dans le mâle. Donc, depuis que Ève a été créée, l'homme n'est plus Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de la capacité divine. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ordonne et les choses arrivent. Dieu parle. Pour qu'un homme rentre dans la dimension de la divinité, il faut qu'il soit un avec sa femme. Quelqu'un me comprend, non? Alléluia. Ta femme est la clé de toutes tes aspirations. C'est pourquoi Proverbe peut dire 18-22, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Alléluia. Mais quand on parle de trouver, ça veut dire aussi chercher. On ne trouve pas une femme au carrefour. On ne trouve pas une femme parce que la femme, même quand tu l'as mariée, écoute mon frère, tu ne l'as pas encore trouvée. La femme a un trésor caché quelque part au fond de son cœur. Il y a un diamant. Il y a une dimension, quelque chose d'extraordinaire que Dieu a déposé dans les femmes. Et dont les femmes même n'en sont pas conscientes souvent. Qui est la clé de ta vision. Mais cette chose-là, ce trésor est enfoui quelque part dans son cœur. Et la femme met sur elle des carapaces de dureté, méchanceté, colère, tout ça. Si tu prends le temps d'aller chercher, ce que la Bible appelle celui qui cherche une femme à trouver le bonheur. Si tu vas, tu creuses. Quand tu trouves le trésor dans ta femme, tu as trouvé le bonheur. Alléluia. Mais il faut le vouloir. Parce que quand la Bible dit celui qui a trouvé une femme à trouver le bonheur, il est en train de dire qu'il faut chercher. Il y a un moment donné, il faut de la volonté. C'est par rapport à ce trésor que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jésus-Christ a ouvert sa vie pour nous, la Bible dit quoi? Qu'il est monté à la droite de Dieu et il est devenu encore plus grand parce qu'il a offert sa vie. Dieu a focalisé toute son attention pour sauver son épouse qui est l'église et qui est nous. Et Dieu dit aux hommes, Marie, de la même manière que Christ, Dieu a aimé son église, toi aussi tu dois aimer ta femme. La clé du succès dans tes entreprises, dans tes projets, se trouve dans ta femme. Maintenant, parce que la dernière fois, je vous ai expliqué cela. Alléluia. J'ai dit, la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Or,
lorsque Dieu a créé Adam, quand vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu a créé, il a pris la poussière, n'est-ce pas? Et il a soufflé en lui, et l'homme est devenu une âme vivante. En l'homme se trouve le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu te maries avec la femme, quand vous vous mariez, après vos premiers rapports, la Bible dit que vous devenez juste une seule chair. C'est ce qu'il explique aussi. Donc, quand on dit une seule chair, ça ne veut pas dire que vous êtes encore un. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore un. Ce n'est qu'une seule, parce que tu es chair, âme et esprit. Ça veut dire qu'au niveau de la chair seulement, vous êtes devenu un. Mais vous n'êtes pas encore un au niveau de l'âme. Vous n'êtes pas encore un au niveau de l'esprit. Et c'est ce que l'homme doit chercher. Un homme doit rechercher à devenir un avec sa femme dans l'âme et dans l'esprit. C'est ça le combat de sa vie. Pendant que tu es en train de prier pour réussir dans tes affaires, pour réussir tes projets, en fait, la clé se trouve dans ta femme. Tu dis, elle me fatigue, elle m'empêche de travailler. En fait, ton travail même, c'est elle. Tu dis, non, elle m'embête, elle parle trop, elle fait... Mon frère, j'ai dit, c'est elle. Mais peut-être qu'elle n'en est pas consciente. Alléluia. Il faut trouver donc le combat dans le foyer. En fait, quand vous vous dites, tu vas quitter ton père et ta mère. Mais quand Dieu est en train de dire, l'homme quittera son père et sa mère. C'est ce que j'ai toujours dit tout à l'heure. Mais c'est important. Parce que quitter, ça veut dire quitter. C'est-à-dire, c'est tellement important. En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est que... Quel est le passage qui dit? Il dit, Dieu dit, voilà celle qui est os de mes os. Adam dit, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et il est dit, donc l'Éternel est arrivé et il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, devenant une seule chair. Il dit, en fait, Dieu explique que l'homme, un homme est plus collé, est plus proche de sa femme qu'il ne l'est de ses parents. Malgré que tes parents t'aient enfanté, ta vraie famille, ton vrai toi, c'est ta femme. Alléluia. Alléluia. Si vous ne comprenez pas donc ce... On ne comprend pas ce premier principe-là, n'est-ce pas? Être prêt à s'offrir. Alléluia. Comprendre que ta destinée est ta femme, ça ne peut pas aller. Parce que quelquefois, tu ne seras pas prêt à payer le prix agapao pour la conquérir. Et quand tu vas essayer une fois, deux fois, trois fois, si elle est compliquée, tu lui envoies une fleur, elle te parle mal. Tu es gentil une fois, elle te parle mal. On dit, femme, elle dit, elle veut cadeau. Tu viens un cadeau, elle te parle mal. Tu dis, bon, c'est la même, c'est bon. Tu as échoué. Il faut être comme Jésus. Jésus est persévérant. Tu refuses de l'accepter et puis il est sur ton dos encore. Depuis des années, il te parle jusqu'à ce que maintenant tu sois sauvé. Dieu a tellement aimé les hommes. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire le sacrifice qu'il a fait est un sacrifice suprême. C'est un sacrifice. Bon, au lieu que tu as sauvé, Jésus t'a sauvé. Mais Jésus t'a cherché. Il t'a cherché. Il t'a cherché. Et homme, veux-tu ramener le vin dans ton couple? Veux-tu connaître la joie? Veux-tu connaître le bonheur? Veux-tu réussir dans tes entreprises? Réussis ta vie avec lui. Mais pour réussir cela, il faut que tu acceptes de payer le prix. Comme l'homme ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, dès l'instant où il se concentre sur sa femme, quand elle ne lui donne pas de réponse favorable, il se focalise sur autre chose. Or, c'est ça le piège. Reviens. Occupe-toi d'elle. Ça va marcher. Je vais t'expliquer en fait parce qu'il y a quatre types de cœur de femme. Il faut savoir son cœur. Parce que. Alléluia. Parce que dans les quatre là, il y a des manières stratégiques. Le trésor est toujours là-dedans. Et savoir, tu as affaire à quel sol. Donc par rapport au sol, quel est le cœur de ta femme? Tu sais comment prendre ton trésor. Mais il faut qu'on t'explique ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va lire Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Il a dit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset qui m'intéresse aujourd'hui. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Alléluia. Donc, si je comprends bien le verset 28, le mari doit aimer sa femme comment? Comme Christ a aimé l'Église. Premièrement, il s'est livré pour l'Église. Deuxièmement, il a sanctifié l'Église par sa parole. Alléluia. La Bible dit que l'homme doit sanctifier la femme par sa parole. Jésus-Christ a sanctifié l'Église par la parole. L'homme aussi, pareillement, doit sanctifier. Les hommes, vous serez confrontés à quatre types de cœurs. Il y a quatre types de cœurs de femmes. Les femmes, donc, aidez les hommes à labourer votre cœur. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 1, il est dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur est sorti pour semer. » Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est venu vers l'Église et il a sanctifié par la parole. Amen. La Bible dit aussi que Christ nous a sanctifiés par la parole. Nous, en tant que chrétiens, il nous sanctifie par ce que nous entendons, par ce que nous recevons de Dieu. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, Dieu nous sanctifie. La femme est influencée énormément par ce qu'elle entend. L'homme, il est influencé par ce qu'il voit. C'est pourquoi j'ai dit à la femme, lorsqu'elle veut amener le vin dans son foyer, il faut qu'elle crée l'atmosphère agréable dans sa tenue, dans ses actes. Amen. Alléluia. La femme est influencée par ce qu'elle entend. C'est pourquoi Jésus dit à l'homme de sanctifier sa femme par ce qu'il dit. La parole, ici, Jésus nous dit que il y a un semeur qui est sorti pour semer. Comme il semait, il y a une partie de la semence qui est tombée sur un chemin où il y avait des pierres. Il y a une autre partie de la semence qui est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. Pardon, la première partie est tombée sur un chemin. La seconde partie est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. La troisième graine est tombée dans un endroit où il y avait des épines. La quatrième graine est tombée dans une bonne terre et elle a commencé à donner son fruit. Et Dieu dit ceci, la première graine n'a pas donné de fruit parce qu'elle était tombée sur un chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus l'en manger. Et Dieu compare le sol, les différents types de sol. Ça veut dire le chemin, le sol rocailleux, le sol d'épines et la bonne terre au cœur des hommes. Le passage est valable pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Amen. Mais ils sont simplement en train de dire que, quel que soit ce que vous dites à quelqu'un, même si ce que vous dites là est bon, si la personne n'a pas un cœur disposé, ça ne portera pas de fruit. Amen. Tu peux dire à ta femme, dis à la femme, chérie, je t'aime, je pense à toi. Tu peux la motiver, lui parler. Mais si le sol n'est pas bon, la parole, c'est la semence. Le Seigneur ici ne met pas en cause la qualité de la semence, mais il met la qualité du sol. L'homme, vous savez, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, pour cultiver le jardin, pour le garder. L'homme, il est un cultivateur. L'homme est un cultivateur. Pour pouvoir semer ta semence dans une femme, il faut préparer son cœur. Ça veut dire, pour que tes projets, parce que tes projets, c'est quand tu dis, chérie, j'ai la vision, je sens que je suis appelé à être un homme de Dieu, je sens que je suis appelé à faire ceci, la femme va se mettre sous la mission. Amen. Mais pour qu'elle reçoive, elle soit d'accord avec toi, il faut que son cœur soit disposé. Et l'homme doit aussi travailler à disposer le cœur de la femme.
pour ôter toutes les craintes, toutes les peurs. Ça peut vous prendre quelque temps souvent, mais c'est un travail à faire. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes donc, comme il y a des hommes aussi, mais il y a des femmes qui ont un cœur qui est comme un chemin. Le cœur du chemin, quand tu vas, tu maries avec une femme, ou bien le Seigneur te montre celle que tu vas épouser, le cœur du chemin, un chemin, quelle est la particularité d'un chemin? Tout le monde est passé. Les gens sont passés. Donc c'est une personne qui a reçu la visitation de trop d'hommes. Les gens lui ont fait des promesses, on lui a dit ceci, on lui a dit cela. Vraiment, elle est fatiguée. En tout cas, les gens sont passés. Les gens ont abusé d'elle. Les hommes l'ont trompée. Peut-être que même aussi elle a trompé des personnes. En tout cas, à la fin, son cœur est devenu raide comme un chemin. La Bible dit, le semeur arrive avec la semence, il jette la graine. Pardon, la graine tombe. Mais les oiseaux du ciel viennent la manger. Et dit les oiseaux du ciel, c'est le diable qui vient et qui enlève rapidement de son cœur tout ce qu'elle a publié. Il faut arriver à discerner une femme qui a eu une expérience assez désastreuse de toutes les relations qu'elle a pu avoir avec des hommes, soit amoureuses, soit professionnelles ou autres. Alléluia. Et l'homme, si tu veux planter ta graine sur la route, il faut labourer aussi la route. Amen. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que ce n'est plus un chemin. Amen. Vous me comprenez, non? Il faut signifier, il faut la convaincre que tu es là, qu'elle n'est plus un chemin par la parole. Il faut la rassurer. Alléluia. Il faut la rassurer. Et là, je ne suis pas en train de parler du mariage futur, mais je parle, tu es dans ton foyer, tu t'es marié, au début la personne découvre, ça va aller le mari. Mais tu te rends compte que tout ce que tu dis, elle n'a pas confiance. Tout ce que tu annonces, chérie, on va faire ceci, chérie, j'ai gardé cela, elle ne croit pas, elle ne pense pas. Ça, c'est un cœur de chemin. C'est un cœur de chemin. Il faut dans un premier temps prendre le temps pour la relever. Si la femme, bien sûr, découvre elle-même dès le début, parce que j'ai dit, il faut qu'un des conjoints se lève en première position. Alléluia. Si c'est elle qui découvre dès le début qu'elle a un problème, madame, si tu découvres que tu as un problème de confiance, sache que ça va poser un problème à ton foyer. Il faut que tu demandes à Dieu de te labourer par sa parole. Alléluia. Mais si cela vient du côté de l'homme, si l'homme distingue ceci, il doit prendre le temps de travailler. De l'encourager, de la motiver, de la rassurer. Amen. Par la parole. Et je vous assure, avec le temps, ça porte toujours son fruit. Il faut la mettre en confiance. Il ne faut pas te décourager. Amen. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas t'abattre. Il faut prendre le temps de la convaincre à cause de ce que son attitude intérieure est devenue comme un chemin. La deuxième chose, le deuxième type de cœur, c'est le cœur de pierre. Alléluia. Le Seigneur dit que la deuxième semence est tombée dans un endroit où il y avait beaucoup de pierres. Et ce qui s'est passé, c'est que la graine a commencé à pousser. La plante a commencé à donner. Elle a commencé à pousser. Mais dès que le soleil est apparu, Luc chapitre 8, verset 13 dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est-à-dire, dès que le soleil se lève, dès que surviennent des épreuves, dès que surviennent des difficultés, cette personne-là vraiment se retire, elle ne croit plus suffisamment. Alléluia. Rapidement, je dis ceci sur le troisième type de sol. Le troisième type de sol, le Seigneur dit, c'est un chemin d'épines. Il dit, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Luc chapitre 8, verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Je vais commencer par là avant de revenir au cœur de roc. Touche d'abord le cœur d'épine. Le cœur d'épine, le genre de cœur, ce genre de cœur. La Bible dit, la parole n'a pas porté du fruit à cause des soucis et des inquiétudes. Ça parle de cœur d'une femme, d'une personne qui est remplie de peur, de crainte et qui s'inquiète constamment. Lorsqu'une personne est pareille, il vous sera difficile de faire réussir, comment dirais-je, vous allez être déçu de semer. Ça veut dire tout ce que vous faites,
les inquiétudes, les soucis. Est-ce que ça va marcher même? Est-ce que on va faire ceci? Elle a beaucoup peur. À peine quelqu'un se lève, la peur. Et cette femme-là n'arrive plus à manifester son don naturel de discernement. L'homme se retrouve dans une position qu'on appelle souvent dans un peu de relation, on dit infirmier, en train de constamment essayer de guérir la personne. Constamment en train d'essayer de la guérir. À un moment donné, tu risques de finir par t'épuiser. Mon ami, on ne sème pas dans une terre où il y a des épines. Tous les cultivateurs, et tu es un cultivateur, mais ton premier champ, c'est le cœur de ton épouse. Tous les cultivateurs savent qu'il faut enlever les épines et puis les brûler. Amen. Quand tu veux travailler avec ton épouse, quand tu es marié, si tu veux connaître le vin nouveau, prends le temps de savoir à quel cœur tu as affaire d'abord. Avant de commencer à t'asseoir pour lui parler de tous tes projets, tu peux lui en parler. Mais tu ne commences pas à semer dans une plantation, dans un champ, sur une terre, pardon, sans avoir pris le temps de savoir comment la terre est. Alléluia. Vous avez aussi des personnes, comme des femmes, il dit les inquiétudes, et puis il dit l'amour des richesses. Il y a des femmes là. Les gens, moi je crois naturellement que quand l'amour vient dans le cœur d'une femme, elle n'est pas attachée à l'argent. C'est pas, les gens qui disent les femmes aiment l'argent. C'est pas vrai. Non, je vous dis la vérité. Une femme qui est attachée à l'argent et qui est sur ses sous et sur l'argent est une femme qui est blessée. C'est pas son être naturel. Ça, c'est la femme qui a souffert dans la vie et qui a décidé, peut-être parce qu'elle a vu sa maman être maltraitée par son père. Elle a décidé qu'elle, un homme, ne peut pas marcher sur elle. Elle-même, elle va chercher son argent. Et elle a l'air très portée sur les sous, en train de compter. Si elle est comme ça, il te sera difficile de bâtir un foyer solide. Il faut prendre le temps d'enlever les épines. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes qui aujourd'hui ont l'air attachées à l'argent. C'est pourquoi vous allez voir certaines de ces personnes, malgré tous leurs sous, quand elles arrivent à avoir de l'argent, quelquefois, il arrive qu'elle s'attache. Voilà. Moi, je vois. À des jeunes. Comme je dis, j'ai rencontré souvent des femmes qui sortaient, qui étaient avec des hommes énormément riches. Et je l'ai vu quand elle a trouvé de l'amour dans quelqu'un qui n'avait pas de l'argent. Quelqu'un mais qui n'avait pas forcément d'argent, mais qui l'aimait vraiment. Et qui savait lui parler. Se détourner de l'argent. Et puis aller vers cette personne. Ce sont des choses que j'ai vues très souvent. Je pense que la véritable soif dans le cœur des femmes, c'est vraiment l'attention et l'amour. Alléluia. Mais c'est n'obtenant pas ces choses qu'elle finit par se, entre guillemets, se prostituer et se vendre à l'argent, disant que la seule chose qui est digne de confiance, c'est le pouvoir de l'argent. Quand tu as l'argent, les gens sont à tes pieds. Le jour où tu n'as plus d'argent, personne ne te considère. Donc je vais avoir l'argent. Les sœurs, si votre cœur est pareil, il vous sera difficile de bâtir un foyer stable. Quelqu'un me suit? Alléluia. Tu as un cœur d'épine. Les soucis et les inquiétudes peuvent détruire ton foyer. Alléluia. Mais comme aujourd'hui, je parle aux hommes, mon frère, si tu découvres cela, prends le temps. Amen. L'autre cœur qui vient avant, le cœur de roc. Bon, ma femme, j'aurais voulu que ma femme soit là. Mais, elle, c'est ce type-là que j'ai rencontré. Après que Dieu m'ait transformé, je suis allé vers elle. Dieu m'a dit que j'avais tort. J'ai pris le temps, guéri, cherché la vision, qu'est-ce que tu attendais de moi. Et je suis parti. J'ai vu une femme, problème de parents, qui avait fini par endurcir son cœur par rapport au problème affectif. Ses parents l'ont eu très jeune. Tu te balades de parent en parent, de maison en maison, et la personne, cette personne-là ne trouve pas de l'affection. Et pour éviter de souffrir, ces gens de femmes-là mettent une carapace sur leur cœur. Et il leur est, par exemple, très difficile de dire, par exemple, à quelqu'un, je t'aime. Voilà. C'est différent du cœur où les gens sont passés. Le cœur où les chemins sont passés, c'était pour être un cœur qui était bon. Mais je me suis approché et les gens ont tellement abusé d'elle
qu'elle a fini par avoir un cœur insensible. Le deuxième type qui est le roc, ce n'est pas forcément que la personne a rencontré beaucoup de personnes, mais ses expériences surtout avec son père, ses parents, l'ont tellement frustré, sa première relation affective, qu'elle a fini par mettre une carapace. Et là où je parle, il y a beaucoup parmi vous qui ont une grosse carapace sur leur cœur, les sœurs. Alléluia. Chers frères, si Dieu vous donne une femme pareille, soyez patient. Labourez-la. Moi, ça m'a pris aussi des années. Je devais prendre ma femme, on était fiancés, et quand j'ai compris ce que je suis en train de vous enseigner, on s'asseyait souvent. Et puis on parlait. À un moment donné, ça marche. Le lendemain, son visage change. On arrive, demain on ne rit plus. Et elle manifestait une attitude lunatique. Changement d'humeur, tout ça là, c'est le cœur de roc là. Changement d'humeur brusque. On arrive, demain on va se retrouver dans la joie. Il n'y a plus la joie. Tu commences à parler des paroles fléchées. Fiou, fiou. Tu dis, mais je ne te comprends pas. Quel est le problème? Il y a quoi? Non. Puis comme ça, subitement ta tête ne lui plaît plus. Après ta tête plaît. Puis c'est comme ça. Après demain matin, non, je ne veux plus. Et vous trouvez cette même attitude-là sur le cœur qu'un chemin. Après demain même, c'est bon même. C'est bon comme ça. Il faut qu'on arrête là. Après d'autres jours encore, non, oui. La personne a les émotions qui ont été détruites par les premières relations affectives vis-à-vis de son père ou de ses frères. Si tu veux réussir avec cette femme, Dieu te convainc que c'est elle. Ou bien vous êtes déjà marié. Prends le temps de labourer. Mon Dieu m'avait convaincu. Et quand j'ai découvert ces choses-là, Dieu m'a dit, il dit, tu vois, la femme que tu vends toi, c'est un trésor merveilleux. Amen. Prends le temps d'enlever tous les rochers. Travaille. Et tu vas voir qu'à l'intérieur d'elle se trouve un trésor extraordinaire. Je vais rassurer tous les hommes qu'il y a ici que vos femmes sont extraordinaires. Mais vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. Retrouver l'image de Dieu est un véritable trésor. C'est pas ça? Parce que c'est la clé de tous les trésors. Mais un trésor ne s'obtient jamais facilement. Si on devait ramasser l'or, comme on ramasse les cailloux, l'or n'aurait eu aucune valeur. Si on devait devenir comme Dieu, comme on porte une chemise, la divinité même n'aurait pas de valeur. Vous savez, la rareté donne de la valeur. C'est pas ça? Pourquoi 10 000 francs est plus important que 1000 francs? Parce que 10 000 francs est plus rare que 1000 francs. Pourquoi? Vous me comprenez, non? Sinon, les deux là, c'est le même papier. On a signé, on a fait quelque chose. Mais pourquoi la rareté? Parce que ce que tu souffres pour obtenir coûte plus cher. Donc la cherté est fonction, la valeur est fonction de la souffrance. On souffre plus pour avoir 10 000 francs qu'on le souffre pour avoir 1 000 francs. Du coup, 10 000 francs est plus important que 1 000 francs. On souffre plus pour avoir 1 million. Donc quand tu vois la douleur que tu as pour avoir 1 million par rapport à 1 000 francs, du coup 1 million a plus de valeur. Le mystère de votre destinée, je parle aux hommes, se trouve dans votre femme. Il faut être prêt à payer le prix pour aller prendre. C'est ce que Paul explique. Il dit, si tu pêches contre ta femme, tu pêches contre ton propre corps. Et c'est comme ça qu'il va. Il dit, femme, il dit, homme, sanctifie-la. Comme Jésus-Christ nous sanctifie par sa parole. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est patient avec nous. Il nous prend. On a différentes formes de cœur. C'est ce qu'il explique. Un semeur est sorti pour semer. Qui est ce semeur? C'est d'abord Jésus. Il a rencontré quatre types de cœurs. Mais les cœurs, c'est nous l'église. Des chrétiens endurcis. Des chrétiens qui n'ont plus eu confiance parce qu'ils étaient abusés par différentes sortes de personnes. C'est ce que Christ a rencontré. Mais Jésus a été patient avec chacun de nous. Il dit, homme, fais de même avec ta femme. Parce qu'elle est ton corps. Et si tu pêches contre elle, tu pêches contre toi-même. Car tu t'arrêtes sur le chemin de ta destinée. Mais, sache une chose, c'est qu'un trésor ne s'obtient jamais facilement. Mais les femmes, je n'ai pas dit qu'il faut fatiguer les hommes. Si tu comprends le mystère, toi-même laboure ton cœur rapidement pour devenir une bonne terre. Le travail sera plus facile. On va dire, chérie, il faut que tu payes le prix. Je suis un chemin. Le monsieur, il jette les graines. ça ne prend pas. Les oiseaux viennent enlever pour manger, ça ne marche pas. Non. Il faut travailler à cela. Et à l'intérieur se trouve un mystère glorieux. Même quand la femme est soumise et elle applique les choses de la soumission, un homme doit tout le temps travailler avec sa femme. Tu dois tout le temps l'apprendre. Prier avec elle, parler avec elle. Il faut lui expliquer les choses. Pourquoi tu vas prendre tel choix? Pourquoi tu vas faire? C'est comme ça que Christ procède avec nous. L'homme doit parler à sa femme. Il faut lui parler. Il faut l'expliquer, chérie, voilà pourquoi j'ai fait le choix. Quand un homme commence à être mystérieux, quand la femme n'entend plus la parole, elle se rébelle. Quand tu viens, chérie, suis-moi sans comprendre. Je suis l'homme, allons-y. Tu n'es pas en train de la sanctifier par la parole. Même Jésus, quand il prend un chemin, il va te dire, il va t'expliquer par sa parole. C'est pourquoi il dit, sanctifie-la par la parole. Mais tu veux voir le verre dans ta famille? Parle à ta femme. Tu as tel projet, discute avec elle. Si tu vois que son cœur ne peut pas trop garder la parole pour le moment, parce qu'elle a un chemin. Donc quand tu lui parles net, le diable prend et puis tout le monde est au courant dans la ville. Comme c'est un chemin où tout le monde a passé, tu remarques que ta femme, elle parle. Donc ne commence pas par lui parler de tes projets. Je n'ai pas dit de ne pas le lui dire. Mais tu dois le lui dire. Commence par labourer son cœur. Par aussi la parole. Parle-lui. Apprends-lui à avoir confiance en elle-même. À l'importance du secret. L'importance de la valeur des choses. Il faut l'enseigner. Il faut lui parler. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On va s'arrêter là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi donc l'homme va quitter son père et sa mère. Et s'attacher à sa femme. Ça, ce passage-là, c'est très puissant. Amen. Juste après le passage du pasteur Cassano, on va terminer notre moment par un grand moment de prière. Conclure avec ce passage. Prier. Amen. Et puis, peut-être le temps qui suit, on va avoir un moment de questions, de réponses. Parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Mais nous croyons que Dieu est en train de nous donner d'avoir des foyers extraordinaires. Et je vous assure, j'ai suivi cette expérience vis-à-vis de mon épouse. Et maintenant, je suis hyperbement heureux. Ça marche. Avant, on faisait des palabres tout le temps. Maintenant, les palabres sont de plus en plus rares. Parce que j'ai compris ce passage. Parler avec elle, lui expliquer tout. Prendre le temps. Être patient comme Jésus est patient. Amen. Tu vas te lever. Seigneur, souviens-toi des foyers. Seigneur, souviens-toi de ceux qui ne sont pas encore mariés. Souviens-toi de ceux qui sont déjà mariés. Souviens-toi de ceux qui sont déçus de leur couple. Souviens-toi. Et que cette parole-là qui a été semée ce soir porte du fruit dans leur vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Éternel, construis nos âmes, construis nos vies, dispose nos cœurs. Je prie, Seigneur Dieu, pour les femmes qui ont un cœur de chemin, de pierre, d'épine. Viens les guérir toi-même, avant même qu'elles n'entrent dans leur foyer. Je prie pour celles qui sont déjà mariées. Investis l'homme de l'onction suffisante, de la patience et de l'amour, afin de renoncer et de travailler dans le cœur de son épouse. De prendre le temps comme toi tu as pris le temps. Et tu nous donnes cette promesse, Seigneur Dieu, que cela va porter son fruit. À toi la gloire et l'élévation au ciel des siècles, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from there.